France Musique.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Une semaine après, ben oui, c'est toujours une joie d'être là, d'attendre impatiemment vos suggestions musicales et d'échanger avec vous. Partageons, écoutons, soyons curieux, étonnés, subjugués, ben oui, pourquoi pas. En tout cas, nous sommes ravis de ces échanges autour de la musique avec vous, grâce à vous. Nous avons des cadeaux également à vous offrir. À quelques jours de Noël, rendez-vous à 7h50 pour tenter de gagner le coffret Jeanne Moreau. Je suis vous tous qui m'écoutez. 10 CD et 2 DVD, un beau cadeau France Musique dans votre boîte aux lettres. Deux chroniques également, 8h, une œuvre 3 idées par Marc-Olivier Dupin, autour ce matin d'une polyphonie de la Renaissance anglaise signée Orlando Gibbons. Et à 8h50, tendez l'oreille avec Christophe Dillis qui va nous dire ce qu'est devenu Charles-Théodore Pachelbel, le fils du compositeur du célèbre canon. Allez, à 7h30, c'est parti, commençons avec l'idée de Sylvie à Neuville-les-Dieppe. Après avoir vu le film Shine, nous dit-elle, en 1997, j'ai eu un véritable choc émotionnel, j'étais bouleversée. Je n'ai cessé de penser à ce film, car c'est grâce à lui que j'ai découvert Rachmaninoff et le pianiste David Elfgott. Je n'entends jamais parler de lui sur France Musique, et malgré ses 11 années d'hôpital psychiatrique, il a réussi à rejouer. C'est vraiment un virtuose et absolument magnifique. Eh bien, grâce à vous Sylvie, David Elfgott. Elfgott sur France Musique ce matin, soyez les bienvenus, il est 7h31.
Thank you.
Des extraits du premier mouvement du concerto pour piano numéro 3, opus 30 de Sergueï Rachmaninov, dans un arrangement de David Hirschfelder avec David Elfgott au piano et Ricky Edwards à la direction de son orchestre pour cette bande originale du film Shine, film qui s'inspire de la vie de ce pianiste australien David Elfgott, interprété d'ailleurs par l'acteur Geoffrey Rush qui a reçu un Oscar et un Golden Globes pour meilleur acteur donc de ce film en 97. Voilà cette mélodie de Rachmaninov qui chante au piano dans ce troisième des quatre concertos pour piano de Rachmaninov. Et bien tout de suite, le premier de nos trois messages que nous avons reçus. Bonjour Audrey.
Bonjour France Musique. Je m'appelle Audrey, j'habite à côté d'Alès dans le Gard. Je vous propose d'écouter l'interprétation de Nemanja Radulovic du concerto pour violon numéro 2 de Mendelssohn, car je suis une immense admiratrice de ce très très grand violoniste qui mêle non seulement une sensibilité incroyable dans son interprétation, mais aussi une énergie exceptionnelle, et je trouve qu'il s'investit complètement corps et âme dans son jeu. Et cette version m'émeut d'autant plus que ma fille Marion étudie le violon, et lorsqu'elle a travaillé ce concerto il y a quelques années, elle s'est beaucoup inspirée de l'interprétation de Nemanja Radulovic, notamment dans la cadence du premier mouvement, qui est une merveille à mes yeux et qui me fait pleurer chaque fois que je l'écoute. Ce concerto de Mendelssohn fait partie des œuvres que je préfère, car je trouve que la légèreté, le rythme et l'aspect pétillant du troisième mouvement contrastent avec le premier mouvement, qui est tellement profond, tellement bouleversant et qui peut toucher l'auditeur jusqu'aux larmes. Et pour ça, Nemanja Radulovic y parvient magnifiquement. Voilà, bonne écoute et à bientôt. Thank you.
Le violoniste franco-serbe Nemanja Radulović qui soulève les foules ici avec l'orchestre de chambre de Prague dans le dernier mouvement Allegro molto vivace du concerto pour violon numéro 2 en mi mineur opus 64 de Félix Mendelssohn. Merci d'être avec nous ce matin pour France Musique est à vous. Nous sommes en direct et nous écoutons vos suggestions musicales. Pour nous contacter, notre adresse mail francemusiqueestavous@radiofrance.com et puis les réseaux sociaux où vous êtes nombreux toute la semaine à réagir sous les posts qui sont mis Twitter, Facebook et Instagram où d'ailleurs je vois Joëva, Hélène, André, Rémi, Vic, Benoît, La Fée des Bois ou encore Flora et Corentin et puis sur Facebook Nicole, Philippe, Arthur, Mathieu, Fabien, Jean-Pierre, Dominique. Merci pour tous vos messages et tout de suite, nous partons dans le Doubs accueillir François. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans France Musique est à vous. Merci. Vous êtes dans le massif du Jura, il y a de la neige actuellement ?
Ah oui, il y a de la neige, oui, il y a pas mal de neige d'ailleurs. Plus on monte en altitude, plus il y a de la neige. Oui.
Et vous êtes à combien d'altitude vous là ?
À 700 mètres.
Ah, donc il y a déjà de la neige, alors quelle chance.
Ah oui, il y a déjà de la neige, oui, puis de la neige, puis il fait froid le matin en plus.
Vous êtes aide-soignant, François, c'est ça ?
Oui. Retraité depuis quelques mois.
D'accord. Vous passez vos journées à quoi désormais ? Vous faites du ski de fond peut-être ?
Non, des raquettes. Je fais des raquettes. Je préfère les raquettes. C'est plus facile. C'est mieux, on peut aller où on veut.
C'est vrai. Alors, ce matin, vous vouliez nous parler de Régine Crespin.
Oui.
Pourquoi, François ?
Oh, bah, parce que moi, j'aime bien l'opéra et puis j'aime bien... j'aime bien cette époque-là aussi, l'époque de Régine Crespin, j'aime bien aussi parce que c'était une époque qui était passionnante. Voilà, c'est pour ça. Puis j'aime bien aussi, j'aime bien Régine Crespin parce que j'aime bien le timbre de sa voix, puis j'aime bien aussi son histoire.
Une immense chanteuse lyrique qui s'est imposée dans les rôles de soprano dramatique, hein, par exemple.
Ah oui.
Berlioz, Poulenc, Strauss, entre autres. Et puis vous nous aviez raconté cette anecdote que peut-être les auditeurs et auditrices connaissent ou non, qu'en 1952, elle s'était vue refuser, elle a eu la désagréable surprise de ne pas être réengagée à l'Opéra de Paris, donc est partie en province.
Ah oui, alors moi j'ai écouté un petit peu sur internet beaucoup de choses sur Régine Crespin et il y a une émission intéressante de Jacques Chancel. Mm-hmm. Jacques Chancel qui l'avait interviewé dans une radioscopie et elle parle, elle dit que c'était un tremplin pour elle finalement. Elle parle, voilà, pour cette époque-là, c'est ce qui lui a permis de faire une carrière aux États-Unis puis d'être cette belle carrière.
Internationale, on parlait de la... je parlais de la province, mais effectivement ailleurs, bien ailleurs aussi. Vous adorez donc les divas, cette voix particulièrement. Vous êtes vous-même, vous nous disiez, François, bénévole au Nohant Festival dans le Berry, dans le domaine de Georges Sand. Vous allez y participer encore l'été prochain ?
Probablement, oui. Oui, ça me manque. Là, j'ai pas pu aller au Nid Chopin cette année, mais j'ai encore envie d'y aller, effectivement.
Alors, revenons à Régine Crespin, donc, que nous allons écouter dans l'air que vous nous avez suggéré ce matin, Ritorna Vincitor, revient victorieux dans l'acte 1 de Aïda, de Giuseppe Verdi. Elle est accompagnée par l'orchestre de la Société des Conservatoires, et puis Georges Prêtre à la direction. Cet air, il vous touche particulièrement, François ?
Oui, alors je le connaissais pas avant, je l'ai écouté pas mal de fois depuis l'autre fois, là, et en fait, je l'avais choisi parce que on lui avait refusé ce rôle à l'Opéra de Paris, et c'est pour ça que j'ai choisi. Mais c'est vrai que il y a un très bel enregistrement de Régine Crespin. C'est c'est avec Ernest
Ansermet.
Ernest Ansermet, l'orchestre de la Suisse romande. C'est les Nuits d'été.
Ce sera pour une autre fois.
Une autre fois, oui, mais donc j'aurais aimé choisir celui-là, mais Aïda, j'ai choisi celui-là parce que c'était au sujet de l'anecdote
de cette histoire.
Pour Aïda, oui, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant d'en parler. C'est pour ça.
Eh bien, merci beaucoup, François, d'être intervenu ce matin pour nous parler de ça. On vous souhaite un très beau week-end et puis des belles balades en raquette. À bientôt.
Très bien, je vous remercie, au revoir.
sur France Musique. Cet air d'Aïda, Ritorna Vincitor, revient victorieux. Giuseppe Verdi avec la voix de la soprano Régine Crespin, Georges Prêtre à la direction de l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire. Aïda, cette esclave éthiopienne qui se sent déchirée entre sa loyauté envers son père et sa patrie et son amour pour Radames, le capitaine de la garde égyptienne, qui n'est évidemment pas sans rappeler Roméo et Juliette ou Tony et Maria dans West Side Story. Vous reconnaissez ce petit air. Jouons ensemble comme chaque samedi. Une question, votre réponse via la page de notre émission. France Musique est à vous sur notre site francemusique.fr. À gagner ce matin, un coffret, beau coffret, Jeanne Moreau, Je suis vous tous qui m'écoutez. Jeanne Moreau, chanteuse, coffret de 10 CD et 2 DVD parus chez Universal en partenariat avec France Musique il y a quelques jours. D'ailleurs, à ce propos, Jeanne Moreau sera à l'honneur les dimanches 26 décembre et le dimanche 2 janvier, tour de chant de midi et demi à 13h avec des inédits de Jeanne Moreau, une émission de Martin Penet. Alors, la question ce matin pour gagner ce coffret, Je suis vous tous qui m'écoutez, dans quel fameux film de François Truffaut chante Jeanne Moreau. C'était en 1962. Dans quel fameux film de François Truffaut chante Jeanne Moreau? Votre réponse via notre site francemusique.fr. Je donnerai la bonne réponse et le nom des gagnants en fin d'émission, juste avant 9h.
Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et pendu au mur. Qu'avez-vous fait?
Je suis des vôtres, je suis vicaire à Saint-Bernard. J'ai dû, pour échapper aux autres, rester 8 jours dans un placard.
Qu'avez-vous fait?
Oh, pas grand-chose, de la misaine et des enfants. Il est temps que je me repose, j'ai 70 ans.
Allons-y tout de suite et fusillez-moi vite.
Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvendue. Au mur, qu'avez-vous fait?
Voici une liste avec les noms de 100 coquins, femmes et enfants de communistes. Fusillez-moi tous ces creux-là.
Qu'avez-vous fait?
Je suis la veuve d'un officier mort au Bourget. Et tenez, en voici la preuve. Regardez, s'il vous plaît.
Oh, moi, je porte encore mon brassard tricolore.
Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvendue. Au mur, qu'avez-vous fait?
4 blessures, 6 campagnes et 2 congés. Je leur en ai fait voir de dur. Je suis Lorrain, ils sont vengés.
Moi j'étais dans une ambulance, les femmes ne se battent pas, et j'ai soigné sans différence fédérés et soldats.
Moi je m'appelle Auguste
et j'ai 13 ans tout juste.
Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvendue. Au mur, qu'avez-vous fait?
Oh, je suis mort, un soldat sans doute enivré a tué mon père à la porte, et mon crime est d'avoir pleuré.
Qu'avez-vous fait?
Sale charogne, fais-moi vite trouer la peau, car j'en ai fait de la besogne avec mon chasse-peau.
Et d'un, tu vois ma lune, et de vive la commune.
Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvendue.
Au mur. 1800. 1871-2021, Alain à Salles-la-Source souhaitait ce matin dans notre émission, avec cette chanson, commémorer la Commune de Paris 150 ans après, chanson d'une extraordinaire force dramatique, Le Capitaine au mur, écrit par Jean-Baptiste Clément et mise en musique par Max Rongier, interprété à l'instant par Armand Mestral et Les Octaves dans le disque La Commune en chantant. 8h tout pile, France Musique est à vous. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants pour la suite de votre programmation musicale et la chronique de Marc-Olivier Dupin.
Les éditions Radio France présentent Musicienne de légende de Marina Chiche. Vous connaissez sûrement Maria Callas et Clara Schumann, mais que savez-vous de Maud Powell ou Ida Presti ? Violoniste, pianiste, guitariste, trompettiste, ces femmes interprètes ont marqué leur époque. Et pourtant, leur nom a disparu de l'histoire de la musique. Dans un livre richement illustré, Marina Chiche redonne vie à 30 musiciennes d'exception pour combler les silences de l'histoire. Musicienne de légende de Marina Chiche, un livre France Musique.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en ce samedi 18 décembre. N'oubliez pas votre panier avant d'aller au marché, vos écouteurs si vous partez courir. Bref, France Musique est avec vous et France Musique est à vous-même. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h avec vos coups de cœur musicaux. Il est donc largement le temps de nous en faire part. Juste avant 9h, à 8h50 précisément, ce sera Tendez l'oreille, chronique de Christophe Dillis qui va nous dire ce qu'est devenu Charles-Théodore Pachelbel, parti vivre en Amérique. Mais sans plus tarder, il est là. Marc-Olivier Dupin pour sa chronique Une œuvre, trois idées.
Une œuvre, trois idées, Marc-Olivier Dupin.
Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Gabrielle.
C'est une joie de vous voir ce matin.
Mais partagé.
Alors aujourd'hui, avec vous, nous allons remonter le temps.
Oui, avec une extraordinaire élégie d'Orlando Gibbons, What is Our Life, publiée pour la première fois en 1612.
Alors pourquoi ce compositeur Orlando Gibbons ?
Ben parce que c'est beau justement.
C'est fou.
Il est pour moi l'un des plus grands compositeurs de la Renaissance et en particulier de l'éblouissante période élisabéthaine et des années qui suivent.
Alors, quelle est votre première idée sur cette œuvre polyphonique, Marc-Olivier ?
Alors, le goût des compositeurs de la Renaissance pour les beaux textes littéraires, ils avaient vraiment bon goût. En l'occurrence, le texte de cette élégie est de Sir Walter Raleigh, qui était un grand navigateur, un poète, et prétendument l'amant de la reine Élisabeth Ier, un personnage de roman. Mais beaucoup d'autres compositeurs se sont emparés de merveilleux textes littéraires. Ainsi, Thomas Morley compose pour Shakespeare. Ici, avec un extrait de « Oh, Mistress Mine », chanté par le pionnier qui était le contre-ténor Alfred Deller dans la redécouverte de ses répertoires. En France, Costelet a le bon goût de choisir Ronsard pour Mignonne, allons voir si la rose.
Quelle est ce matin votre deuxième idée ? On est toujours sur cette élégie que vous nous avez fait écouter tout à l'heure d'Orlando Gibbons.
Alors, le chemin des compositeurs de la Renaissance vers la verticalité, vers l'harmonie. Dans l'évolution des langages musicaux de la musique savante, la fin de la Renaissance est une période absolument fascinante. Elle marque l'avènement de la pensée harmonique. Pour faire court, sans être trop technique, la polyphonie ne se limite plus à une savante superposition de lignes mélodiques, mais les accords s'enchaînent de façon harmonieuse. Dans la célèbre pavane à quatre voix « Belle qui tient ma vie », À chaque syllabe du texte correspond un accord. Et le tout est d'une grande fluidité et d'une intelligibilité parfaite.
Ça me rappelle mes grands-parents parce que je chantais ça avec eux. Voilà. Alors, votre troisième idée, Marc-Olivier.
Cette pavane est un tube des chœurs, et à juste titre.
On n'était bien sûr pas les seuls.
Alors, la troisième idée est très simple, c'est la passion de la voix en ce début du XVIIe siècle. Quel meilleur exemple que ce célèbre psaume intitulé « Oh, clap your hands » mis en musique par Gibbons. Le texte enjoint à chanter « With a voice of melody », avec une voix mélodieuse.
Psaume au Clap Your Hands, choisi ce matin par Marc-Olivier Dupin. Merci beaucoup pour ce retour en arrière, effectivement.
Avec de belles choses.
Absolument. Une chronique, une œuvre, trois idées, à réécouter, bien sûr, sur notre site francemusique.fr, à retrouver, réécouter également sur l'appli Radio France. On se dit à la semaine prochaine, puisque oui, on sera en direct le jour de Noël.
Mais oui, avec joie, Gabriel.
Et vous aussi, donc, à samedi prochain.
À samedi.
France Musique est à vous. Gabriel Olivier Aguillon.
Le rabier recoule le moineau, Pépi caquette, la poule jacasse, la pie, le chameau blatère et le hibou hurle, râle la panthère et craque la grue. Toi, 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 sois belle et tais-toi. L'éléphant barrette la jument et nie, ulule la chouette belle la brebis. Le crapaud coasse, piaule le poulet. Le corbeau croasse, cajole le jet. Toi, 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 sois belle et tais-toi. Le cerf brame, l'âne brêle le lion, rugit, cancane la canne, le taureau mugit, le dindon glouglotte et braille le pan, la caille margotte siffle le serpent. Toi, 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 crois, sois belle, tais-toi.
La voix de Serge Gainsbourg à 8h10 et cette chanson « Sois belle et tais-toi » proposée par Arthur sur Facebook qui vit à Quatzenheim juste à côté de Strasbourg. Il a choisi cette chanson, nous dit-il, car il la trouve formidablement écrite et enchanteresse. L'orchestre d'Alain Goraguet fait des merveilles ici avec ses harmonies au vent et ses percussions. Gainsbourg qui parle des femmes avec une certaine innocence enfantine, nous dit Arthur, et ça le rend amoureux. Et bien voilà, on sait tout. Le pouvoir de la musique. Merci pour vos mots, Arthur. Et cette très belle idée, Gainsbourg, que l'on n'écoute pas si souvent. Alors Schoenberg, lui, et bien un peu plus, c'est le choix d'Alain ce matin. Bonjour Alain.
Oui, bonjour Gabriel.
Bienvenue dans l'émission, vous nous appelez du Kremlin-Bicêtre.
Oui, c'est ça, oui.
Que faites-vous dans la vie, Alain? Je sais que vous êtes retraité,
alors,
mais
je suis retraité.
Que
je suis
faites-vous
retraité.
De vos journées?
Je suis retraité. Je suis de mes journées, bon, effectivement, j'écoute beaucoup Transmusique, mais ce, depuis 40 ans, donc c'est vraiment... un vieux souvenir, quoi. Les imitants de Dominique Jameux, dans les années 80, où effectivement Dominique Jameux avait fait des émissions sur la deuxième école de Vienne, qui était assez étonnante et dont j'ai un petit peu le souvenir, dont le souvenir me revient. Et à l'époque, on avait écouté, effectivement, ils avaient fait écouter tous les quatuors de Schoenberg, et particulièrement ce deuxième quatuor. Où effectivement le quatrième mouvement avec la voix de Margaret Price.
Ouais, dans cette version que nous allons écouter ce matin.
Voilà, cette version du quatuor La Salle. Et donc, on écoute assez peu les quatuors de Schoenberg, on les écoute assez peu. Et les paroles d'ailleurs de ce quatrième mouvement sont de Stefan Görg, je crois.
Oui.
Poète allemand. Et elles sont terribles lorsque c'est « Je nage dans un océan glacé ». Donc on a l'impression que c'est un petit peu le voyage d'hiver de la deuxième école de Vienne. Donc une manière de représenter la mort.
C'est une pièce effectivement capitale, ce deuxième quatuor de Schoenberg. Il a été écrit en 1908 et donc il y a cette soprano avec le quatuor dans la version que nous écouterons ce matin, Margaret Price. Vous en avez parlé avec le quatuor La Salle, ce quatrième mouvement qui s'appelle Entrückung, Transport, qui est précisé très doux. Alain, comment avez-vous connu ce quatuor? Donc c'était avec l'émission de Dominique Jameux. Est-ce qu'après peut-être vous l'avez vu en concert?
Ensuite, je l'ai trouvé dans des discothèques, mais il est très extrêmement difficile à trouver puisque je pense que l'enregistrement du quatuor La Salle est pas quasiment introuvable aujourd'hui.
Mais nous l'avons dans notre discothèque à Radio France.
Voilà, heureusement vous l'avez, mais c'est un trésor. Il faut vraiment le conserver précieusement parce que c'est très difficile à retrouver. Je pense qu'il y a eu d'autres interprétations quand même depuis. Hein.
Certainement. En tout cas, ce disque-là.
Ajac, Arod, Assarello, je crois pas Assarello. Je crois qu'il y a quelques quatuors qui l'ont repris.
En tout cas, ce disque-là date de 1971 et il est bien conservé, je vous rassure, dans les grands placards de la discothèque de Radio France. Est-ce que vous vouliez rajouter un mot, Alain?
Simplement, je regrette que Stéphane Goldé ne fasse plus son émission sur les plaisirs du quatuor, parce que c'était aussi assez extraordinaire.
On aura l'occasion d'écouter d'autres quatuors. Exactement, voilà. Mais on la salue, peut-être qu'elle nous écoute. Un grand merci Alain d'avoir été avec nous matin. Je vous souhaite un bon week-end et merci beaucoup pour votre fidélité.
Merci Gabriel, au revoir, bonne journée.
Thank you. Thank you.
Le mouvement final du quatuor à cordes numéro 2 en fa dièse mineur opus 10 d'Arnold Schoenberg, Entrückung, qui signifie transport, une œuvre de transition de Schoenberg qui marque à la fois le terme de sa période tonale et puis le début d'une deuxième phase un peu stylistique que l'on pourrait dire expressionniste. C'était à l'instant l'interprétation du quatuor La Salle avec la soprano Margaret Price. Tout de suite un deuxième message vocal que nous partageons avec vous, celui de Victoire.
Bonjour à tous, je m'appelle Victoire, j'ai 15 ans et je vais vous parler du quintet en fa mineur de Brahms, opus 34. Ce morceau, que j'ai découvert il y a seulement quelques mois, il m'a tout de suite marqué dès la première écoute. On dit que Brahms avait l'habitude de détruire ses compositions quand il les considérait pas comme réussies. Alors on pourrait dire que le quintet en fa mineur, opus 34, est rescapé. Il a d'abord écrit sous forme d'un quintet à cordes, puis il a été transformé en sonate pour deux pianos. C'est la troisième et finale forme de l'œuvre que l'on connaît. Un quintet avec piano. J'adore ce morceau, rien que les premières mesures nous présentent un thème qui est prenant. On voudrait chanter. Et tout au long du morceau, on est absorbé par cette atmosphère où chacun des instruments a sa place, son rôle. Les mouvements se suivent, ils sont tous différents, mais on a l'impression de reconnaître cette même énergie tout au long du morceau. À chaque écoute, j'ai même le sentiment de découvrir un nouvel aspect de l'œuvre et de l'aimer un peu plus à chaque fois. C'est un morceau qui m'a marqué, il continue à me marquer, il me suit dans ma vie depuis que je l'ai découvert. Je vous laisse maintenant profiter du morceau et à très bientôt, j'espère.
À l'instant, le premier mouvement Allegro non troppo du quintet avec piano en fa mineur opus 34 de Johannes Brahms. On ne s'en lasse pas, c'était l'interprétation du quatuor Strada avec Éric Le Sage au piano dans leur intégrale qui a débuté il y a quelques années de toute la musique de chambre de Johannes Brahms. Et justement, nous recevrons le violoniste de cette belle entité musicale. Pierre Fouchonneret sera avec nous dans Musique Matin le 11 janvier pour le concert de cette intégrale le 24 au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris.
Gabriel Olivier Aguillon, France Musique est à vous.
Nous recevons vos mails en direct. Bonjour à Patricia à Bourg-Fidèle, Salah à Saint-Germain, Jean-Yves à Saint-Nazaire, Bernard à Pontarlier, Gérald à Marseille, Franck à Chamonix ou encore Marie-Noël à Perpignan et Ambre et Oxane à Paris. Et avec nous depuis Lille sur la Sorgue dans le Vaucluse, Christiane. Bonjour Christiane.
Bonjour Gabrielle.
Alors vous vivez dans cette jolie petite ville?
Oui, c'est ça.
Depuis longtemps?
Ah oui, depuis plus de 40 ans.
Très bien. Vous avez fait une belle découverte récemment d'un baryton décédé il y a quelques années à l'âge de 55 ans. Je vous laisse en parler, Christiane.
Oui, il s'agit de Dmitri Rostovski, qui est un baryton russe qui a débuté sa carrière... En tout cas, sa carrière internationale en remportant le concours de la BBC à Cardiff en 1989 et qui avait une voix absolument magnifique. Et en plus de ça, pour lui, il avait une beauté physique. Quand on le voit sur une scène d'opéra, il avait vraiment tout pour lui.
Vous aimeriez donc ce matin lui rendre hommage en l'écoutant dans un air de la Dame de Pique de Tchaïkovski.
Oui, c'est ça. Dans l'air du prince
Yeletsky.
Voilà.
Cet air-là vient de l'acte 2. En français, oui. En tout cas, c'est « Je vous aime à la folie ». Vous parlez peut-être un peu russe ou en tout cas, vous le comprenez?
Je l'apprends, je prends des cours. Ah. Bon, c'est une langue très, très difficile. Donc, je ne saurais pas vous parler en russe. Bah oui, je peux vous dire « Yavasloublio ». Mais bien sûr, quand j'ai un texte russe, je le fais traduire ou je prends des traducteurs automatiques qui sont pas toujours très fiables, mais c'est toujours mieux que rien. Et là, c'est un texte qui est très beau. C'est pour ça que j'ai choisi... J'avais vraiment l'embarras du choix, parce qu'il a une typographie énorme.
Bien sûr.
Mais je me suis orientée vers un texte russe, vers un chant russe, et plus particulièrement un opéra, puisque c'est quand même ça qui a fait sa gloire, et en tout cas international. Et donc...
Et cette air est une belle déclaration d'amour.
Ah oui, magnifique. Vraiment, quand il lui dit qu'il laissera son cœur libre, c'est quand même, pour un texte du 19e siècle, c'est quand même très... Je pense que c'était pas courant, même de nos jours d'ailleurs, qu'il fera taire sa jalousie, qu'il sera son serviteur, son mari aimant, son consolateur, etc. Enfin, c'était d'une tendresse magnifique, quoi. J'ai été très émue de ce texte et c'est donc celui-là que j'ai choisi pour la mémoire de Dima.
Vorotovski, donc Dimitri, ici avec l'Orchestre Symphonique de Boston, dirigé par Seiji Ozawa. Et d'ailleurs, cet opéra, La Dame de Pique, est basé sur la nouvelle fantastique La Dame de Pique de Pouchkine.
Oui, c'est ça, oui, qui avait été retoqué par le frère, qui a fait les paroles, et même Piotr Tchaïkovski y a mis sa patte aussi dans les paroles. Enfin, mais bon, la trame, c'est quand même la nouvelle de Pouchkine, bien sûr.
Merci beaucoup, chère Christiane, d'être intervenue ce matin pour rendre hommage à ce baryton russe, Dmitri Vorostovski. On vous souhaite un très beau week-end et on vous dit à bientôt.
Je vous remercie beaucoup.
Bonne fin d'année, au revoir.
Au revoir.
Безмерно, без вас я мыслю дня прожить, я подвиг силы беспримерно, готов сейчас для вас свершить. Свободу.
se señas, que tu escrivazza van mudando.
La voix du baryton Dmitri Hovorostovski dans cette air du prince Yeletsky, extrait de la Dame de Pique de Tchaïkovski, Ya vas l'oublio, je vous aime à la folie. Le baryton était accompagné par l'Orchestre Symphonique de Boston, dirigé par Seiji Ozawa. 8h40, merci d'écouter France Musique. Et nous tenons d'ailleurs ce matin, au nom de toutes les équipes de France Musique, à remercier chaleureusement un auditeur fidèle, tant sur les réseaux que sur sa radio, Kamel B, qui a envoyé une trentaine de plaquettes de chocolat pour nous tous ici. Xavier, Atto, face à moi, tu l'as eu ta plaquette de chocolat? Non, bah voilà, on va vous la donner. En tout cas, c'est adorable. Merci beaucoup, Kamel. Vraiment un grand, grand merci de la part de tout France Musique. Troisième message vocal, c'est celui de Patrick.
Bonjour Gabriel, bonjour aux auditeurs de France Musique, je suis Patrick Langot et je suis violoncelliste et je vous appelle aujourd'hui en tant qu'auditeur car j'aimerais vous faire découvrir un disque de deux interprètes dont une me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de ma maman. Ma maman, Michèle Langot, pianiste qui était accompagnatrice à l'École nationale de musique de Brest, qui a fait de nombreux concerts au sein de l'orchestre Paul Quenz. Et c'est en tant que chambriste qu'elle a enregistré avec Monique Frasca-Colombier, violon solo de l'orchestre Paul Quenz, qui était également aussi professeur au conservatoire. Et elles ont enregistré plusieurs disques, dont un magnifique disque des sonates d'Albéric Magnard et de César Franck, la sonate en la majeure de César Franck. Voilà, c'est très émouvant pour moi car ma maman m'a transmis sa passion de la musique, bien sûr, quand j'étais petit, et notamment de la musique de chambre. Je trouve que c'est une version magnifique de cette sonate que je vous propose d'écouter aujourd'hui grâce à vous, Gabriel. Merci beaucoup.
Thank you.
Frasca Colombier au violon et Michel Langot au piano dans cet allegro de la sonate pour violon et piano en la majeure de César Franck. Un cadeau de César Franck à Eugène Isaïe, violoniste belge, pour son mariage en 1886. Et d'ailleurs, cette sonate serait l'une des sources d'inspiration de la sonate de Vinteuil dans À la recherche du temps perdu de Proust. Et ça, je ne sais pas si Patrick le savait. En tout cas, merci pour vos mots, vos émotions. Et avant d'accueillir Christophe Dilige, je salue Chantal aux Molières, Amandine qui nous écoute dans un bus en route vers la Bourgogne. Merci aussi à Yacine pour son message depuis Alger qui nous dit « Ici, nous ne marchons pas en raquette » comme nous le disait François en début d'émission dans le Jura, mais avec de bonnes paires de chaussures pour profiter de ce beau soleil en nous écoutant donc depuis Alger. Et puis également un message de Marie-Frédérique à La Roche-sur-Yon qui nous remercie pour la chanson qui rappelle l'histoire des pauvres de notre cher pays, donc en parlant de la commune, une suggestion d'Alain. Merci pour vos réactions en direct, ça nous fait très plaisir, mais merci aussi, cher Christophe, d'être là ce matin pour votre chronique. Tendez l'oreille, il est 8h51.
France Musique. Tendez l'oreille. Christophe Dilis.
Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous.
Vous avez l'air de bonne humeur, vous allez...
Je suis d'extrême bonne humeur, je ne sais même pas pourquoi.
Vous allez vous livrer un petit exercice, ça va vous calmer. Aujourd'hui, tout dire sur quelqu'un.
Et oui, vous connaissez ma tristesse. Chaque semaine de ne pouvoir soulever qu'un tout petit minuscule pan de rideau sur la production des Haydn, des Monteverdi ou des Charlie Parker, de ne pouvoir parler que d'un tout petit si bémol dans une ballade, là c'est tout le contraire. Je peux vous dire exactement tout ce qu'on sait du compositeur dont je vais parler. C'est le compositeur idéal pour le format chronique. Tout ce qu'on sait de lui tient en 5 minutes à la fin de la chronique.
On va Gabriel,
vérifier. Gabriel et tous ceux qui nous écoutez, vous en saurez autant que moi sur lui.
Alors que pourtant, il ne s'agit pas de n'importe qui.
Oui, il s'agit du fils de Johann Pachelbel, le compositeur du fameux canon. Charles Théodore Pachelbel partage quasiment les mêmes dates que Jean-Sébastien Bach, 1690-1750, et surtout, il est parti en Amérique.
Avant de parler de Charles Théodore Pachelbel, ça ressemblait à quoi la musique en Amérique du Nord au XVIIe siècle, Christophe ?
Nous sommes dans les premiers temps de la présence européenne en Amérique. Le Mayflower arrive sur le sol américain en 1620 avec ses livres de psaumes. En Amérique, pour l'instant, on y compose moins de musique qu'on en importe. Toutes les colonies résonnent au son de musique transportable, des chants religieux et des chansons séculaires toutes simples. Pour vous dire à quel point les conditions de vie pour un musicien qui débarque en Amérique pendant la Renaissance n'étaient pas faciles, j'ai repéré dans mes recherches le destin d'un petit musicien, un certain James Hutey, violoniste. On dit qu'il jouait « Upon a Violin at Sea ». Il est installé à Jamestown, en Virginie, en 1620. Les Virginiens ont découvert qu'il était un violoniste anglais, mais Jamestown ne pouvait pas l'aider à vivre. En 1625, on sait qu'il est devenu agriculteur, puis les documents parlent de lui comme un « fiddling rogue and rascal », accusé d'avoir volé le tabac de la compagnie. Ce n'est qu'à partir de 1720, un siècle plus tard, que le continent semble disposé à donner de l'importance aux professionnels de la musique. L'Amérique avait alors un besoin urgent de professeurs, de concerts, d'orchestres, de théâtre, d'organistes et de compositeurs de menuet.
Et c'est là que le fils de Pachelbel entre en jeu.
Exactement. Charles Théodore Pachelbel est né en 1690. Il a fallu attendre le début du XXe siècle pour qu'une musicologue, Virginia Larkin Redway, celle qui a mené l'essentiel des enquêtes sur le fils Pachelbel, écrive à Stuttgart pour obtenir confirmation par le certificat de baptême qu'il s'agissait bien du fils de Johann Pachelbel, le compositeur du canon. Je vais vous dire en une minute tout ce qu'on sait de lui. On ne sait pas pourquoi il arrive sur le continent américain au début des années 1730.
Ça, déjà, vous
ne
savez pas.
Voilà, à Boston, mais on sait qu'on ne sait pas. On se doute qu'il a passé du temps en Angleterre avant d'arriver en Amérique parce qu'aucun document américain ne mentionne qu'il est allemand. En 1734, il est engagé par la Trinity Church de Newport, à Rhode Island, pour assembler un orgue donné par le philosophe George Berkeley. A priori, il s'agirait de l'orgue qui a servi au couronnement du roi George II en 1727.
25 février 1733. Il a été voté que le gardien de Trinity Church écrive à Monsieur Charles Theodore Percival à Boston pour qu'il vienne aider au montage de l'orgue récemment arrivé à l'église.
Percival, oui, aucun document ne s'accorde pour écrire Pachelbel correctement. Il est le professeur du compositeur anglais Peter Pelham, l'organisateur du premier concert sur le sol américain. Il donne lui-même le premier concert new-yorkais en 1736.
Le mercredi 21 janvier sera donné un concert de musique instrumentale et vocale par M. Pachelbel qui jouera la partie de clavecin. Le concert commencera précisément à 6h en la maison de Robert Todd Vintner.
Avant de s'installer à Charlestown en 1736 où il devient organiste à la St. Philip's Church. Mars 1749, il annonce dans les journaux qu'il veut ouvrir une école de chant pour les jeunes filles. Malheureusement, après une maladie qui lui immobilise les mains, on lit en 1750 qu'il est enterré.
15 septembre 1750, a été enterré Charles Theodore Pachelbel, organiste de la paroisse de l'église Saint-Philippe.
Et voilà, vous connaissez tous les documents allemands et américains qui mentionnent le fils Pachelbel. Vous en savez autant que les musicologues de terrain.
Et musicalement, Christophe, qu'est-ce qui reste de la musique de ce fils de Pachelbel ?
Eh bien, pas grand-chose. Trois pièces pour être exact. Un Magnificat composé lorsqu'il était encore en Allemagne, un air God of Sleep, et on a trouvé en 1997, un menuet trouvé dans un carnet anonyme de 1739.
Est-ce qu'on a des enregistrements de ça ?
Alors, du Magnificat, oui, même plein d'enregistrements. De l'air God of Sleep, je n'en ai pas trouvé.
Et concernant le menuet ?
Alors, je me suis dévoué. J'ai enregistré cette nuit pour la création radiophonique mondiale aujourd'hui du menuet du fils de Pachelbel, 282 ans plus tard. Je suis très ému de vous présenter ce chef-d'œuvre qui n'a pas été entendu depuis le XVIIIe siècle, ce menuet du fils de Johann Pachelbel. Je vous avais pas dit que c'était un chef-d'œuvre. Hein.
Bon, il Magnificat alors.
Alors le voici, il s'agit d'une partition pour double chœur composée en Allemagne à une époque où il a forcément connu Jean-Sébastien Bach puisque les liens entre la famille Pachelbel et la famille Bach étaient très forts. Voilà, ça permet de faire le point sur la musique en Amérique durant la Renaissance. Et puis il y a quand même quelque chose d'agréable de se dire que maintenant on connaît tout ce qu'on peut connaître sur quelqu'un. C'est pas grand chose, mais c'est exhaustif, Gabriel.
Merci beaucoup, je pense que ça va demander une réécoute hein, sur le site francemusique.fr, l'appli Radio France pour retrouver toutes ces informations sur ce fils. Merci Christophe.
Ben, merci à vous.
On se retrouve le jour de Noël, samedi prochain.
Oui, et j'ai déjà mon sujet de chronique.
Oh ben écoutez, France Musique est à vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe d'avoir été avec nous ce matin. Et puis vous, ben, ce matin, il fallait nous répondre Jules et Jim, le film dans lequel chante Jeanne Moreau, chanson de Serge Resvani, Le Tourbillon. Bravo au gagnant et à la gagnante, c'est Gérald à Marseille. Et merci pour vos nombreuses réponses. Profitez-en si vous voulez pour nous dire ce que vous avez envie d'écouter la semaine prochaine. Oui, on sera donc en direct le jour de Noël. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de France Musique. Et tout de suite, Charlotte Landru-Chandès, bonjour.
Bonjour Gabriel.
2 heures de concert maison, quelle chance.
Et oui, 2 heures de Camille Saint-Saëns aujourd'hui. J'espère que vous aimez Saint-Saëns parce que là, on va en entendre.
Et oui, absolument, on partage ça ensemble jusqu'à 11h. Bonne émission.
Merci, bon week-end.
À réécouter sur francemusique.fr.